Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que si vous êtes là dans la maison de Dieu, c'est parce que vous attendez une parole de Dieu. Vous avez besoin, vous avez soif d'entendre une parole particulière pour vous-même, pour votre situation. Et nous sommes là et nous savons que Jésus-Christ est vivant. Amen. Est-ce que vous le croyez? Jésus-Christ est au milieu de nous et il veut nous dire certaines choses. Pour introduire ce message ce matin, je voudrais vous l'introduire tout simplement avec la lecture d'un passage. Et je profiterai de cette lecture de ce passage pour introduire mon message. Donc c'est dans Actes, au chapitre 16. Donc Actes, chapitre 16, du verset 27 au verset 33. Actes 16, verset 27 jusqu'au verset 23. Et j'ai demandé à Daniel s'il voulait bien le lire. Chapitre 16, du verset 27 à 33.
Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte : « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit : « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.
Amen. Voilà, ce matin, ce que je veux apporter avec vous, c'est ce verset qu'on a lu. Ne pas se faire de mal. Ne pas se faire de mal. Je pense que dans notre vie, il y a assez de mal comme ça qui peut nous arriver ou nous accabler sans pour cela qu'on puisse en rajouter. Et nous trouvons ici un passage dans le Nouveau Testament où Paul arrête un homme. C'était un gardien de prison et à un moment, il voulait mettre fin à sa vie, il voulait se faire du mal et Paul lui dit « Arrête, ne te fais pas de mal ». Parfois, sans pour cela que nous nous rendions compte, nous pouvons avoir des comportements, des attitudes, des raisonnements ou même des réactions qui se retournent contre nous, au point de nous faire mal. Il y a des mécanismes comme ça dans l'être humain où on peut avoir des attitudes, on peut se faire mal. Et ces comportements, si on veut leur donner un nom, ça s'appelle des comportements à risque, des comportements dangereux, ou même des comportements suicidaires. Alors c'est un thème qui n'est pas forcément facile, mais c'est un thème qui touche beaucoup notre région. Tout ce qui est au niveau des comportements dangereux et des comportements suicidaires. C'est une triste réalité, mais la Bretagne est une région où il y a le plus haut taux de suicide sur la France. Et durant la réunion du 4 mars, au niveau des ateliers, au niveau de l'évangélisation, cette réflexion est arrivée sur le tapis et la réflexion était la suivante, il faudrait qu'on arrive à rejoindre les gens là où ils sont, dans leur misère et dans leur détresse. Et je me pose cette question, est-ce qu'on connaît vraiment notre région? Connaissons-nous réellement notre région? Là où Dieu nous a placés? Est-ce que vous croyez que Dieu vous place quelque part? On a une mission à faire, et Dieu vous demande d'œuvrer là où vous êtes. Et je pense que c'est important de savoir et de connaître dans quelle région on se situe. Donc, je vais vous donner quelques statistiques sur la Bretagne. Bon, ce n'est pas très, très glorieux, mais je pense que c'est important de réaliser dans quel département, dans quelle région on se situe. Alors, Kevord, tu peux projeter. Donc, au niveau du suicide, chaque jour en Bretagne, il y a 3 personnes qui mettent fin à leur jour. Il y a environ 50 personnes qui font une tentative de suicide et 30 personnes sont hospitalisées. Donc, comme je vous le disais, la Bretagne est au premier rang des régions touchées par le suicide. Donc, il y a un pourcentage de 27 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne en France est de 16. Les deux départements les plus touchés, c'est le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Et le territoire, le territoire de santé, donc ça c'est des statistiques hein, des hôpitaux, qui recensent le plus grand nombre de tentatives de suicide, c'est Rennes, Fougères, Vitré, Redon. On est en plein dedans. Le nombre de tentatives de suicide par rapport à la Bretagne, donc en 1990, on recensait 6 000 tentatives de suicide, et entre 2000 et 2005, il y en a eu environ le double, 12 000. Et dernièrement, je voyais un article sur l'Ouest France où il était noté que la Bretagne avait un autre score. C'était celle, elle était en tête des consommations de drogue, de tabac et d'alcool. Hein, la consommation d'alcool des jeunes en Bretagne est nettement supérieure à la moyenne en France. Et donc les Bretons ont une conduite addictive plus que la moyenne en France. Je crois, et si j'annonce cela ce matin, c'est parce que nous savons que Dieu a quelque chose à faire. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne faut pas qu'on s'attende uniquement à... Souvent, quelqu'un disait, l'Église a vendu son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. C'est-à-dire que l'Église a une mission. Et des fois, on veut s'appuyer sur l'État, sur des associations de ceci, cela, mais Dieu demande que l'Église intervienne dans ces choses-là. Et quelqu'un, peut-être ce matin, arrive dans cette église en disant ben, « Qu'est-ce que tu dis ce matin? Vous ne parlez pas de religion entre vous, tu ne veux pas nous parler de la puissance du Saint-Esprit, des miracles ?» Non, pas du tout. On veut parler aussi de faits d'actualité. Et je crois que c'est important de savoir là où on se situe pour être efficace dans nos prières, dans notre intercession. Et dans la parole de Dieu, il n'y a aucune place pour une église repliée sur elle-même. Il n'y a pas de place dans la Bible pour une église repliée sur elle-même. C'est-à-dire une église qui ferme ses portes et qui chante des cantiques entre eux, sans pour cela qu'on puisse s'interroger et se questionner sur ce que les gens vivent à l'extérieur. Les gens ici présents, les personnes ici, vivent les choses que les gens vivent à l'extérieur. Et l'église doit réfléchir à apporter un message d'espérance dans cette génération. Amen, un message d'espérance. Et j'ai noté dans Proverbes, tu peux projeter s'il te plaît. Donc juste après, il est marqué dans le proverbe « Ouvre ta bouche pour ceux qui sont traînés vers la mort. Ceux qui vont perdre la vie, sauve-les. Si tu dis « Oh, on ne le savait pas. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Ouvre ta bouche pour le malheureux et le désespéré. » On ne le sait pas. Dans quelle région vivons-nous? Eh bien, je pense que Dieu veut nous révéler aussi de savoir là où on se tient. Là où on se tient. Et nous croyons que Dieu a quelque chose à dire à ce sujet. Permettez-moi de balayer quelques causes de suicide dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'actuel. Ce n'est pas un livre ancien, c'est quelque chose d'actuel. Et je vais vous le démontrer en balayant quelques personnes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont été pris par cette tentation de vouloir se faire du mal. Et même certains ont mis fin à leur vie. La première personne, donc je vais les balayer rapidement, c'est dans l'Ancien Testament, c'est Achitophel. Achitophel, c'est le conseiller du roi, David. C'est un homme qui a un bon emploi, il a une bonne écoute, une bonne réputation. Sa réputation, elle était telle que, quand on allait le voir, c'est comme si, quelque part, on consultait Dieu. Il avait une autorité, comme si c'était Dieu qui parlait à la personne. Et un jour, cet homme, conseiller du roi, son conseil n'a pas été pris au sérieux. Son conseil a été rejeté. Son aide a été refusée. Et d'un coup, il y a comme une menace qui tourne autour de Achitophel. Une menace. Une menace de perdre son emploi. Une menace de perdre tout ce qu'il avait pu construire pendant des années. Tout ça s'est écroulé d'un coup. Une menace et il perd sa place. Il est déçu que son conseil ne fût pas pris au sérieux, sa crédibilité n'était plus là et il décida de mettre fin à sa vie. Il est marqué dans 2 Samuel 17 qu'il retourne chez lui, il met les choses en ordre et il se pend. Il y a ensuite Abimélec. Abimélec, c'est un homme qui a été blessé gravement et il demande qu'on puisse le tuer, de l'achever. Quelqu'un qui n'arrivait pas à se projeter avec un handicap physique, une douleur, une situation qui le dégradait. Et je crois encore aujourd'hui, il y a des gens, on reçoit une nouvelle, on a telle ou telle maladie, et d'un coup, c'est le basculement. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il y a Zimri, dans 1 Roi 16. Zimri qui, il est marqué qu'il mourut à cause du mal qu'il avait fait et des voies dans lesquelles il avait marché. C'est un homme qui il a réalisé soudainement de son état et de tout le mal qu'il avait pu causer autour de lui. Et là, cette chose-là le conduit au suicide. Il meurt brûlé vif dans un incendie allumé par sa propre main. Ça me fait penser à des gens qui sont prises avec des dépendances, la toxicomanie, de l'alcool, des gens qui sont dans une voie, ils essayent de s'en sortir et ils n'y arrivent pas. Ils ont toujours l'impression que les choses reviennent et que le mal qu'ils ont pu faire tout autour d'eux, eh bien, c'est de leur faute et soudainement, ils réalisent ces choses-là et ils veulent mettre fin à leur vie. Il y a aussi un homme dans la parole de Dieu que vous connaissez bien, c'est Élie. Élie qui était quelqu'un qui était épuisé. Il était épuisé. Élie, c'était un leader spirituel, mais il y avait une telle pression sur lui. Il y avait une pression qui était là, qui s'accumulait sur sa vie. Et en fin de compte, dans un moment, il a demandé à Dieu que Dieu puisse mettre fin à ses jours. Élie passait par un épuisement, une dépression. Il demande la mort. Et cette dépression, ces épuisements ont des visages différents. Vous pouvez côtoyer des gens avec un visage radieux, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Élie était vu par les autres comme un leader spirituel vraiment fort, mais quelque part, il était vulnérable, Élie. Et souvent, les diagnostics des suicidés, par rapport à la médecine, c'est 50% des cas, c'est des gens qui passaient par une dépression ou alors ils avaient une dépendance à l'alcool. C'est des faits, la Bible est actuelle. Elle nous parle de faits ainsi, non pas pour nous condamner, mais pour nous mettre aussi dans la réalité des choses. Je vais vous parler de Jonas aussi. Jonas, lui, c'est le bateau coule, c'est de ma faute. Hein? Jonas était dans une tempête et il dit au marin, écoutez, s'il y a ça aujourd'hui, s'il y a la tempête, c'est de ma faute. Jetez-moi par-dessus bord. Et ça fait penser à des gens qui sont pris dans toutes sortes encore de dépendances. On peut penser au jeu. Vous savez, il y a des gens qui jouent tellement qu'il y a un moment, ils vont aller jusqu'à la ruine. Et la famille ne le sait pas. Et puis un jour ou l'autre, il va falloir en parler. Et des fois, ils n'en parlent pas. Ils préfèrent finir leur vie avec cette dette que de pouvoir le signaler. Ça peut être des gens qui connaissent une faillite ou alors des parents avec un jeune qui tourne mal. Et d'un coup, les parents se culpabilisent en disant « si le bateau coule, c'est de ma faute ». Ou alors des jeunes qui voient ses parents divorcer et qui disent, le jeune, il se dit « s'il divorce, c'est de ma faute ». Le syndrome du bateau qui coule. La culpabilité aussi. Alors ça, vous avez un exemple dans le Nouveau Testament. Quelqu'un qui s'est culpabilisé. Est-ce que vous avez le nom en tête comme ça ? Judas, voilà. Judas, après avoir trahi Jésus, se pend pour faire cesser sa souffrance. Vous savez, entre Judas, souvent, on a tendance à bien le charger, mais Judas et Pierre, c'était deux personnes identiques. Judas a trahi Jésus, mais Pierre a aussi trahi Jésus. Les deux ont trahi Jésus. Par contre, Judas n'a pas pu se remettre de cela et il s'est suicidé. N'oubliez pas que Judas, Jésus a lavé ses pieds. Il a lavé les pieds de Judas, il a lavé les pieds de Pierre. Jésus était auprès de Judas. Mais Judas, avec cette culpabilité, et ça, c'est un fléau. Il y a des gens qui ont des culpabilités, qui pensent que la situation, elle est terminée, elle est irréversible, et ils mettent fin à leur jour. Je reviens sur mon gardien de prison. Le gardien de prison, à cette époque-là, si les prisonniers s'évadaient, c'était terrible. Il n'y avait pas de sanction, de mise à pied ou « tiens, je vais te donner un petit blâme ». Non, c'était fini. S'il perdait ses prisonniers, c'était l'exécution. Et il est dit qu'il y a eu un tremblement de terre, le passage que Daniel a lu, et les prisonniers sont sortis. Et cet homme, paniqué, il est dit qu'il était marié, il avait une femme et des enfants. Et soudainement, dans la situation soudaine, il y a quelque chose, il y a des fois des situations où on n'arrive pas à voir ce qu'il peut y avoir après. Et cette situation soudaine donne à cet homme de vouloir mettre fin à sa vie. Je crois que Dieu n'est pas dépassé par ce qui arrive dans le cœur des uns et des autres. Dieu veut et aime les âmes. Ne te fais pas de mal. Et j'aimerais qu'on puisse, pour donner un exemple de ce qui peut se passer dans les cœurs des uns et des autres quand on a mal, quand on a honte, eh bien, on va écouter Serge. Serge qui a composé un chant qui nous dit « Jésus, j'ai mal ». On va écouter ce chant vraiment pour se mettre aussi dans la position ou de comprendre aussi ce que peut être la souffrance. Et ensuite, on va parler de ce que Dieu veut faire dans les vies. Amen.
Se mêle sur des chemins tortueux, entraînant ma colère, mes vents impétueux. J'ai crié mes misères à qui ne pouvait entendre. Ce monde est bien cruel, que puis-je encore? Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte, quand le péché me rattrape, la route est encore longue et mon cœur si sombre. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte, quand le péché qui s'attache m'écarte de ton nom. Loin de ta face, il se fait déjà tard, l'obscurité nous atteint, la lumière se fait rare, le sablier s'éteint. Je sais que la détresse sera bannie dans les cieux. Comme un présent précieux. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte, quand le péché me rattrape, la route est encore longue et mon cœur s'y sombre. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte, quand le péché qui s'attache de ton nom, loin de ta face. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte, là où le péché abonde, ta grâce surabonde, ta grâce surabonde, ta grâce surabonde, ta joie m'inonde.
Merci Serge pour ce chant. Ne te fais pas de mal. Et le gardien de prison va convertir le mal qu'il voulait se faire, il va le convertir en bien. On l'a lu, à un moment, le gardien de prison, qu'est-ce qu'il demande ? Donnez-moi de la lumière. Est-ce que ce matin, est-ce que vous voulez que la lumière resplendisse dans vos vies ? Est-ce que quelqu'un ce matin a besoin que la lumière se fasse dans sa vie en disant « Seigneur, j'ai mal, Donne-moi cette éclaircie. Il dit que le gardien de prison vient aux pieds de Paul et Silas. Ce matin, ne venez pas aux pieds de Paul et Silas, parce qu'ils sont morts, mais venez aux pieds du ressuscité, venez aux pieds de Jésus-Christ. Il interroge, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Pour arrêter d'avoir mal? Et la réponse est là, crois en Jésus-Christ, celui qui peut te sauver, crois en Jésus-Christ. Et après avoir voulu se faire du mal, cet homme-là est amené à se faire du bien au niveau de son âme, à sauver son âme. Il a écouté les enseignements, il a obéi et il est passé par les eaux du baptême. Et j'encourage les gens qui suivent les instructions au baptême. Voilà en quoi on croit. On croit en Jésus-Christ crucifié. On n'est pas là pour intégrer une nouvelle religion ou faire partie d'un club, mais on croit en Jésus-Christ crucifié, celui qui peut sauver notre âme. Et l'âme est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, par la suite, donc il se fait baptiser, lui et sa famille qui croit, ceux qui ont l'âge de croire. Et ensuite, il va nettoyer les plaies. Il avait assisté ils ont tapé Paul et Silas, il était là, il assistait. Et une fois qu'il a reçu le fait de se faire du bien en son âme, il fait du bien aussi aux autres. Et des fois aussi, la leçon qu'on peut tirer, c'est que quand on veut se faire du mal, on peut aussi faire du mal à ceux qui nous entourent. J'aimerais voir avec vous trois manières de se faire du mal. Non pas pour vous donner des conseils, hein, attention, on n'est pas... Mais pour comprendre certains mécanismes. Il y a, dans la parole de Dieu, des manières de voir des personnes qui se font du mal. Et j'intitulerai ça « Se faire du mal comme, par exemple, telle ou telle personne ». Donc, le premier cas que je voudrais voir avec vous, c'est un homme qui se faisait tellement de mal qu'il avait même oublié son nom. Et Jésus vient auprès de lui, il lui demande son nom, et le nom qui va être prononcé, c'est même pas son nom, c'est le nom de démons qui sont en train de l'envahir. C'est se faire du mal comme le possédé de Gadara. Donc ça, c'est dans Marc 5. Donc Marc 5. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Daniel, est-ce que je peux encore te demander ? Marc 5, verset 1 jusqu'au verset 5.
Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres.
Donc là, on a affaire à... J'ai pris cet exemple pour nous parler de personnes qui se font du mal. Et là, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Cet homme-là se meurtrit avec des pierres. Suivant d'autres traductions, ou si vous prenez des commentaires bibliques, en fin de compte, il devait y avoir des rochers. Et cet homme-là, il était tellement en mal, il avait tellement mal qu'il se jetait sur des rochers. Et bien sûr, cet homme-là se faisait mal, mais contre sa volonté. On le sait, c'était la conséquence de la possession. Il était possédé par des esprits qu'il dominait, qu'il habitait, et il se jetait contre des rochers. Et les esprits qui étaient là, donc la définition qui dit, c'était des esprits impurs, méchants et mauvais. Et la question que je me pose, c'est comment cet homme dans les tombeaux est arrivé à cette extrémité ? J'ai pas la réponse, mais ce que l'on sait par rapport à la parole de Dieu, c'est que la Bible nous encourage à ne pas laisser d'accès au diable. De ne pas laisser d'accès au diable. Cela ne veut pas dire non plus que tout homme qui donne accès au diable va tomber dans des possessions de ce calibre. Mais d'une façon ou d'une autre, en laissant accès au diable, on se fait avoir, on se fait posséder. Et on se fait du mal quand on se laisse posséder, parce que l'adversaire prend aussi ce qu'on lui donne. Et quand on se laisse posséder par le diable, par ses mensonges et ses tentations, eh bien, on se fait du mal. Donc pour cet homme, les choses sont spectaculaires. Il nous est parlé qu'il avait une force surnaturelle et il avait un comportement donc, qui faisait qu'il se faisait mal. Et j'aimerais prendre cet exemple pour revenir à « ne te fais pas mal » et vous poser cette question, peut-être pour certains, pourquoi te fais-tu du mal avec des pierres ? Pas forcément des pierres, mais toute autre chose. Il y a dans la vie des attitudes d'autodestruction. Il y a dans la vie des attitudes d'autodestruction. Je vais clarifier mon propos. Des fois, on veut punir les autres, mais on se punit soi-même. J'ai écouté à la radio une émission sur le piercing. Alors surtout, ne vous sentez pas blessé si je vous parle. Je vise personne à travers ça. C'est seulement pour vous donner un exemple de ce que j'ai pu entendre à la radio. Et la radio, c'était « Pourquoi le piercing ?» Et il y a une personne qui a répondu « Eh bien, le piercing, c'est pour punir Dieu. » Alors, déjà, premier, je ne vois pas trop le rapport, mais si vous creusez un peu, ce que la personne a voulu dire, c'est pour punir Dieu de nous avoir fait tel que l'on est. Et des fois, à vouloir faire punir quelqu'un d'autre, cette personne voulait punir Dieu, eh bien, elle se punit elle-même. Il faut admettre qu'il y a des gens qui ont leur lot de souffrance sur la terre. Il y a une tristesse qui est là, il y a un lot de souffrance, et des fois, ces personnes-là se disent, c'est Dieu. Je l'attribue à Dieu, si je souffre ainsi, c'est Dieu qui me punit, etc. Et ces gens-là, en voulant punir quoi que ce soit, se punissent eux-mêmes. On peut se meurtrir soi-même. J'aimerais qu'on soit éclairé par rapport à ça. On peut se meurtrir soi-même. Et il faut demander ce matin la lumière de Dieu dans nos situations. Vous savez, c'est des choses subtiles. C'est par exemple un enfant qui veut punir un prof. Alors il se dit, bon, puisque c'est ça, moi je vais lui louper toutes les interros. Et en fin de compte, cet enfant, en réaction, il se punit soi-même. Ou alors, c'est une personne qui dit, je vais punir mes parents. Je vais arrêter de manger. Et ces personnes-là, en fin de compte, ne punissent pas l'autre. Elles punissent, eh bien, elles se punissent elles-mêmes. Alors, on peut se faire du mal, comme à l'exemple de se posséder de Gadara. On peut se laisser du mal si on se laisse submerger par les puissances des ténèbres. Mais heureusement, et puis il me vient en tête, là, ce qu'on a connu dernièrement, avec ce lycéen qui est rentré dans un lycée avec des fusils. Et souvent, ce que vous entendez dans les actualités, c'est qu'il était fasciné par les armes. Mais ils oublient de dire qu'il était aussi dans un mouvement satanique et il aimait beaucoup tout ce qui était occulte. Et il y en a un qui se sert. C'est-à-dire que cet enfant, il était blessé. Et puis, avec cette blessure, l'adversaire est venu pour l'envahir dans les ténèbres. Et à un moment, il a voulu se venger lui-même en disant « on ne me respecte pas, ils sont toujours en train de m'écraser, moi je vais montrer de quoi je suis capable ». Et aujourd'hui, il n'a pas puni les autres, il se punit lui-même parce qu'il va faire de la prison à vie. Et pour revenir au possédé de Gadara, heureusement Jésus est passé par là. Heureusement Jésus est passé par là et cet homme a été délivré. Et il est marqué qu'il est vêtu, il est assis, vêtu et dans son bon sens. Quand Jésus passe, il délivre, il nous assoit dans la foi et dans la présence de Dieu. Il nous revêt du pardon de Dieu. Si quelqu'un ce matin a besoin du pardon de Dieu, Dieu veut te revêtir de son pardon. Et ensuite, il est dans son bon sens. J'aimerais faire, mettre des guillemets, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport aux chrétiens, par rapport aux gens qui sont là, qui ont donné leur vie à Jésus. Par rapport à ce texte, il y a un détail très important. On a parlé de la Bretagne, et j'aimerais qu'on puisse voir aussi ce détail important qui nous parle du territoire. Il y a tout un enseignement sur le territoire. Les démons, ils s'appellent comment ? Comment ils se nomment ? Légion. Légion. Et cela exprime une chose. Ils auraient pu s'appeler multitude, mais ils s'appellent Légion. Et cela exprime quoi ? Ça exprime la domination romaine. Il y a une principauté qui était dans ce lieu qui ne voulait pas que le territoire soit sous la domination de Dieu. Et donc, il y a ici une principauté qui règne sur ce terrain, et il s'appelle Légion. Donc, une domination romaine. Et il est dit aussi que dans ce coin-là, ils élevaient des porcs. Ils élevaient des porcs, pourquoi ? Pour nourrir les troupes adverses, pour nourrir l'envahisseur. Et Dieu a fait une promesse en tant que chrétien. Dieu a promis, au temps d'Abraham, il a dit « Je te donnerai une postérité aussi nombreuse que les grains de sable ». Mais il a dit aussi qu'il donnerait un territoire. Et je crois que Dieu, Jésus, veut qu'il y ait de l'espace pour son peuple. Cette année, on parle de que Dieu nous donne un champ nouveau, que Dieu élargisse nos tentes. Mais au niveau territoire, j'aimerais que vous le saisissiez, Dieu veut qu'on prenne du territoire. Du territoire. Vous savez, il en a assez aussi que, soi-disant, le prince de ce monde soit ici sur un territoire. Il est le roi de l'univers. Et il veut récupérer du territoire. N'oubliez jamais que la terre est à Dieu et que trop souvent, elle appartient à des compromis. L'adversaire en fait ce qu'il veut. Mais au-dessus, c'est Dieu qui règne. Hein, n'oubliez jamais. C'est pour cela que moi, ça ne me pose pas de problème de chanter « Jésus-Christ est Seigneur de cette nation ». Parce que même si on voit des choses qu'il ne faut pas, mais la terre appartient à qui ? À Dieu. La terre appartient à Dieu. Et il peut arriver que Jésus, que le Seigneur nous demande de reconsacrer une terre. Et cet acte est puissant. Je vais vous donner des exemples par rapport au territoire. Je vais vous parler de la Suisse. Je ne sais pas s'il y a des Suisses parmi nous. Et la Suisse, c'est un pays qui s'est déclaré spirituellement et la constitution appartenant à Dieu. Hein. Les Suisses se sont déclarés appartenant à Dieu. Et quand vous voyez la guerre 39-45, il y a quelque chose qui est inexplicable au niveau de l'histoire, c'est que ce pays-là n'a pas été envahi par les armées hitlériennes. Elle a été protégée. Et ça, c'est incohérent, c'est surnaturel. Je vais vous donner un exemple contraire. Une petite île dans les Caraïbes. D'un côté, il y a la République dominicaine, et de l'autre côté, il y a Haïti. Et c'est vrai, c'est pour vous questionner. Hein. Je ne donne pas des solutions, mais c'est pour comprendre qu'au niveau territoire, il y a des choses qui existent. La République dominicaine a été évangélisée par des prêtres dominicains. Et c'est un pays qui est prospère, paisible. Et de l'autre côté, vous voyez Haïti, sur la même île. Et elles sont séparées en deux. Et cette petite Haïti est pauvre et sous la puissance du vaudou. Donc, il y a quelque chose au niveau du territoire. Mais attention, hein, attention à toutes les littératures sur les combats spirituels. Je ne veux pas qu'on puisse rentrer là-dedans. Mais comprendre que la bataille se joue où ? Elle se joue dans la libération des gens qui vivent dans ces régions. On est appelé à annoncer la parole de Dieu, on est appelé à guérir les malades, à purifier les lépreux, à ressusciter les morts, à chasser les démons. Et cela, ça libère le territoire. Est-ce que vous le croyez, ça ? Que ça libère le territoire. Jésus a été dans un territoire païen, il a libéré une personne, il lui a dit maintenant, va te présenter à ta famille. Et nous savons qu'il y avait une principauté sur cette région. Et la fidélité de l'intercession, c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour tout le monde l'intercession. Ce n'est pas uniquement pour une catégorie de personnes. Pourquoi ? Parce que le danger, après, c'est de tomber un petit peu, comme à une certaine époque, dans l'Inquisition. Donc, on est surtout appelés tous à faire de l'intercession. Allez, je voudrais vous donner encore quelques petits exemples par rapport à la France. Ce qu'il faut voir au niveau de la France, c'est comment ce pays a été évangélisé. Je ne sais pas si vous savez comment elle a été évangélisée, mais ça a été une conversion de surface. Souvent, toutes les fêtes religieuses qu'on a, c'est des fêtes païennes qui étaient auparavant. Et souvent, par exemple, si vous prenez un petit hameau de village, il y avait dans ce petit hameau des gens qui priaient des dieux, des génies, ils appelaient ça des génies. Et après, quelques temps après, quand le christianisme est arrivé, pour amadouer les gens, pour leur vendre le christianisme, eh bien, ils ont fait une église en s'appelant Saint-Génie. Donc, il y a des compromis. Il y a des compromis. Et souvent, la France a été une conversion de surface. Hein, pas en profondeur, de surface. Je ne dis pas que dans ces lieux-là, il y a l'absence de Dieu. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il y a, comment dire, il y a deux choses qui existent. Un petit peu comme Jésus, quand il a chassé les chasseurs, les vendeurs dans le temple, il y avait Dieu qui était là, mais il y avait autre chose aussi. Donc il y avait un compromis. Il y avait un mélange. Et nous devons reconsacrer le territoire à Jésus-Christ. Un autre exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris. En fin de compte, elle est dédiée à quoi ? Elle est dédiée à la Reine du Ciel. Alors, je vais m'expliquer. La cathédrale a été construite sur une église qui s'appelait... Elle était construite sur une ancienne cathédrale, Saint-Étienne. Et cette cathédrale Saint-Étienne, elle a été construite sur un temple gallo-romain dédié à Jupiter. Ce dernier, Jupiter, est assimilé à Baal, à tout ce qui concerne les cieux et la foudre. Donc il y a un compromis. On ne le voit pas, mais cette cathédrale, elle est chargée spirituellement. Elle est chargée spirituellement. Et même cette cathédrale, au temps de la Révolution, elle a été dédiée à la raison. Et dans tout ça, la Bretagne dans tout ça. Vous savez, le christianisme en Bretagne, elle est vraiment de surface. En fin de compte, on voit beaucoup de choses, mais c'est religieux. C'est beaucoup, beaucoup religieux. Les prêtres bretons sont beaucoup respectés dans les régions de la Bretagne parce que souvent, il y a quelque chose aussi au niveau du territoire. Quand on est breton, on est catholique. Et le prêtre breton a une importance. C'est un endroit où il y a énormément de calvaires. Il y en a plus de 10 000. Plus de 10 000 calvaires. Mais tout ça, il y a des choses qui sont héritées des druides. Vous savez, il y avait des menhirs. Maintenant, on n'a plus des menhirs, mais on a des calvaires. Donc, il y a tout un mélange. Tout un mélange. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ça. Hein, Dieu veut que le pays soit à lui. Amen. Je voudrais qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse prier, pas tomber dans un combat inutile, mais regagner ce territoire et le consacrer à Dieu. Il y a du travail, vous êtes dans le bon endroit pour proclamer la gloire de Dieu. Voilà, ça c'était une parenthèse par rapport au territoire. Un petit point, se faire du mal aussi, donc on a vu le possédé de Gadara, il s'est fait du mal par rapport au diable qui domine sa vie, mais on peut aussi faire du mal par rapport au péché. Serge nous l'a chanté, par rapport au péché qui domine notre vie. Les choses qui sont les plus préjudiciables dans notre vie, c'est le péché. C'est le péché. Et Dieu nous appelle à une chose, c'est à la repentance. C'est le meilleur moyen de ne plus se faire du mal. C'est le meilleur moyen de ne plus se faire du mal. Les gens qui mettent fin à leur vie, c'est ça aussi qui les tourmente. Ils pensent qu'ils ne pourront jamais obtenir un pardon par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Et le péché est là, il les grignote, il les asservit. Mais Dieu nous dit qu'il est là pour pardonner nos torts. Et il voit tout ce qu'on a pu faire, mais il veut nous donner ce pardon. Et un dernier exemple, se faire du mal à la manière de Jacob. Se faire du mal à la manière de Jacob. Jacob avait perdu son fils, il a cru perdre son fils, Joseph. On lui a dit que Joseph avait été tué. Et il est marqué dans les Écritures que Jacob refuse la consolation. Jacob refusait la consolation. Un peu comme ce psaume 77 qui dit « Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans cesse. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon âme est abattue. » Est-ce que vous ne trouvez pas ça illogique ? On crie à Dieu, mais on ne veut pas être consolé. Et je crois que des fois, il y a des paradoxes comme ça. On est des êtres illogiques. On est des êtres qui... des fois, on voudrait que notre frère et sœur puissent nous téléphoner ou venir nous voir pour nous parler. Et puis quand ils sont là, on fuit. Ou alors, on voudrait avoir un coup de téléphone, mais quand ils sonnent, on ne décroche pas. Des fois, on est des êtres illogiques. On refuse la consolation. Et quand on se renferme sur soi, ainsi... même Dieu ne peut rien faire dans notre vie. Même Dieu. Et se renfermer sur soi, eh bien, c'est des comportements qu'on peut observer par rapport à des gens qui veulent mettre fin à leur vie. Et Jacob, lui, donc, refusait toute consolation. Et ce matin, au cas où, tu te dis, je suis rempli de tristesse, tu te chagrines pour certaines choses. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Jacob se chagrinait pour certaines choses, mais son fils était encore vivant. En fin de compte, il se tracassait pour certaines choses, mais la solution était déjà là. Et je crois que des fois, on se chagrine. On passe du temps à pleurer sur des situations, mais Dieu nous dit que la solution, elle était déjà là. Hein? Ce matin, si tu te morfonds sur des choses, tu pleures, je voudrais que tu entendes la voix de Dieu qui te dit, moi, j'ai déjà la solution. Amen. Quand Jésus dit à la femme qui a perdu son enfant, ne pleure plus, c'est pas le fait, ne pleure plus parce que je ne veux plus entendre tes pleurs, c'est parce que je sais ce qu'il y a après. Ne pleure plus. Bien sûr que c'est important de pleurer, mais je voudrais qu'on voit aussi cette espérance qu'il y a devant. Donc Dieu a la solution. C'est pas toujours facile d'y croire, je vous l'accorde, et que celui qui n'a jamais douté jette la première pierre. Mais il est dit qu'il faut attendre le secours de Dieu en silence. Et donc Jacob refuse cette consolation. Et à un moment, donc c'est au chapitre 45, verset 13, Joseph dit, allez dire à mon père toute la gloire d'Égypte. Et j'aimerais qu'on puisse oublier Joseph et penser à Jésus. Je crois que Jésus nous dit aussi, écoutez, je suis mort pour tes péchés, je suis crucifié pour toi, et il nous dit aujourd'hui, ne pleure plus, prends conscience de ma gloire. Hein? On a un Dieu glorieux, viens vers moi. Et Jacob a eu du mal à croire. Hein? Je ne sais pas s'il était breton, mais il a eu du mal à croire. Ce n'est pas facile hein, de faire sortir les gens de leur enfermement. Il est enfermé, il n'en sort pas. Des fois, on peut dire « Jésus est vivant » et il y a quelque chose qui est là, qui les tient toujours enfermés. Mais Jacob va pouvoir après voir son fils et la libération est là. J'aimerais terminer ce message ce matin. Je ne veux pas passer trop de temps sur cela, mais je voudrais qu'on puisse réfléchir sur nous-mêmes. Et dans Proverbes, il est marqué que l'homme bon fait du bien à son âme. Et l'homme cruel trouble sa propre chair. Je crois que ça, c'est un message de l'Évangile. S'il y en a un qui essaye toujours de vous accabler, de vous faire du mal, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Nous ne voulons pas faire du mal à notre âme. Nous voulons « ne te fais pas de mal ». Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre cette position. J'appellerai les musiciens pour terminer. J'aimerais donner l'occasion d'un appel ce matin. Croyez à l'Évangile. Amen. Et ce qu'on veut dire ce matin, c'est de recevoir pleinement le message de Dieu. Que tu puisses ce matin avoir une délivrance peut-être en toi. Il y a des gens qui sont venus, je crois, ce matin accablés, désespérés, et ils ont besoin tout simplement de reconnaître leurs besoins. J'aimerais vous dire que rien ne peut te retirer de l'amour de Jésus-Christ. Tout ce qui peut arriver autour de toi, même si tu es tombé, rien ne peut te retirer de l'amour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se recueillir ? Un moment, baisser notre tête. Ce matin, on va avoir un moment de prière, non pas quelque chose de magique. On en a parlé des choses magiques qu'il peut y avoir autour de notre région, autour de la Bretagne. Et même quelque part, j'aimerais que ce message soit « Bretagne ne te fait pas mal ». J'aimerais que ce matin, même d'une façon individuelle, quelqu'un a besoin de ressentir, d'arrêter de se faire du mal, d'arrêter de s'auto-punir, d'arrêter de vouloir punir quelqu'un, d'arrêter de se faire du mal. Il est marqué dans la parole, c'est assez, pourquoi continues-tu à t'enfoncer au mon âme ? Dieu me relèvera. Il m'a sorti de l'emprise de la mort et de la tombe. » C'est-à-dire qu'il y avait comme une étrange attirance vers la mort. « Mais je le déclare, je ne mourrai pas, mais je vivrai à la lumière des vivants. » Ce matin, que je veux prier pour les uns et pour les autres, peut-être interpeller quelqu'un qui a besoin de cet acte de guérison, des pensées qui sont peut-être venues traverser ton âme, ton cœur, ce ras-le-bol, cette envie de tout vouloir laisser tomber et même des fois vouloir se meurtrir. Je veux prier ce matin, non pas qu'il n'y a pas de honte sur toi pour reconnaître ces choses, mais je te demande tout simplement devant l'appel de Dieu, de te lever à ta place pour proclamer que ce matin, eh bien, je refuse de me faire du mal. Je ne veux pas me faire du mal. Certains peut-être ont des pensées de dépression. Et vous avez besoin d'un moment de délivrance. Que celui qui se sent interpellé puisse se lever tout simplement et dire: Seigneur, moi je veux m'approcher près de toi. Je veux recevoir. Que celui qui veut recevoir cette grâce, cette bénédiction, puisse se lever. Qu'il n'y ait rien qui vienne obstruer la présence de Dieu, la bénédiction du Seigneur. Amen. Amen. Dieu voit ton âme. Dieu te connaît. Est-ce que Dieu touche ton cœur ce matin? Est-ce que tu ressens cette bénédiction qui te dit: tu n'es pas seul? S'il y a des choses qui te tourmentent dans ta vie, s'il y a des choses ténébreuses, eh bien, Dieu veut cesser ces choses-là. Dieu veut reconquérir ce que tu es, comme il veut reconquérir le pays, la région, il veut reconquérir ton âme. Tu t'es senti peut-être oppressé, tu as des sentiments d'échec et tu as voulu faire des bêtises, eh bien, Dieu est là pour te réconforter. Dieu est là pour te donner son secours. Dieu est là pour te bénir. Et puis on va continuer à le proclamer à travers ce chant. Mon secours est en toi. Que les personnes qui se sont levées restent debout et vous allez pouvoir le chanter de tout votre cœur. Que ça soit pour vous un moment différent en disant: je ne veux plus laisser d'accès au diable. Je ne veux plus laisser d'accès à celui qui veut me faire du mal. Mon âme est bénie dans les mains de Dieu. Je ne veux plus me faire du mal en refusant la consolation. Un poids qui t'écrase, une pression au travail, des choses qui sont là pour t'accabler. Je ne veux plus me faire de mal. Amen.
Shavir, Créateur de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu. Je chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi.